Bienvenue à vous et merci d'avoir choisi la première pour votre matin. Demain, la RTBF se mobilise et fait appel à vos dons à travers la grande soirée Cap 48 avec trois objectifs. Une meilleure inclusion sociale des personnes handicapées, l'amélioration des conditions de vie des jeunes en difficulté et puis la recherche sur la polyarthrite rhumatoïde. Mais le contexte est particulier cette année. Évidemment, le coronavirus a polarisé tous les regards, faisant peut-être passer au second plan d'autres causes. Et puis, il a compliqué la vie de toute la société, ce qui veut dire aussi de toutes les personnes en situation de handicap, des structures d'accueil. Alors, que s'est-il passé exactement dans le secteur? Les associations ont-elles pu venir en aide dignement aux personnes dépendantes? Quels sont désormais les enjeux pour le secteur du handicap? Un invité pour nous répondre ce matin, c'est l'administrateur délégué de Cap 48. Bonjour Renaud Tocquer.
Bonjour.
Alors, je le disais, on a tous vécu une année très, très particulière, mais j'imagine que pour les personnes qui bénéficient habituellement de Cap 48, ça a été encore pire que pour nous.
Oui, bien sûr. Alors c'est bien de le positionner dans ce sens-là, Charlotte, vous avez raison, parce qu'en effet, cette année, nous avons le monde entier traversé par une crise majeure. Cette pandémie touche tous les secteurs de la société, tous les continents, tous les pays, et nous tous, dans notre quotidien, au travail, dans notre vie privée, professionnelle, parmi nos amis. Peut-être avons-nous aussi des proches qui ont été fort malades, voire pire, peut-être certains sont-ils décédés parmi nos proches. Et donc nous vivons collectivement une situation extrêmement pénible. Et alors, bien entendu, sur les secteurs qui s'occupent de collectivités, et donc bien sûr il y a le secteur du handicap, le secteur de l'aide à la jeunesse, mais on peut parler des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, les hôpitaux qui sont la première ligne actuellement dans ce combat contre l'épidémie, et bien dans tous les secteurs qui gèrent les collectivités, la tension est extrême. Parce qu'en effet, le propre des épidémies et la difficulté des épidémies, c'est qu'en effet, c'est la contamination qui est le souci majeur. Et dès lors qu'on gère un groupe, et bien il faut faire attention à éviter que cette contamination se propage. Et dans le secteur du handicap, il y a toute une série de précautions qui ont dû être prises, qui ont fort bien été prises. Le secteur a très très bien réagi dans les secteurs en général ont fort bien réagi, mais ça a nécessité à la fois des difficultés au niveau de la compréhension, donc quand même des souffrances, des difficultés psychologiques, parce que nous en souffrons, mais les autres aussi en souffrent dans leur quotidien, des difficultés à caractère organisationnel, des difficultés à caractère financier.
Et concrètement, ça se traduit comment, par exemple, dans le quotidien des associations? Est-ce qu'on peut demander à un enfant autiste ou trisomique de respecter des distances de sécurité? Comment on gère ça?
Eh bien, on le gère le mieux qu'on peut. On le gère le mieux qu'on peut. À l'intérieur des associations, en effet, en fonction du taille des associations, des bulles ont été constituées, des groupes dans lesquels il y avait une forme d'immunité collective ou de protection de l'immunité collective qui ont été constituées de manière à éviter, en effet, que les bulles... Enfin, c'est cette fameuse théorie des bulles, éviter que les bulles se croisent et fassent des clusters. Et donc, ça a été un casse-tête terrible pour les grosses associations de devoir composer ces différentes unités qui allaient traverser ensemble l'épidémie.
Mais elles se sont adaptées.
Elles se sont adaptées. Donc il y a eu beaucoup de réactivité, beaucoup de force au niveau des professionnels. On y a fait une enquête au mois de juillet qui a révélé. Donc ils ont interrogé pratiquement 1000 personnes dans le secteur du handicap. Et donc le rapport de cette enquête démontre que la crise et le confinement ont eu un impact psychologique extrêmement fort sur les personnes handicapées, sur les familles aussi, parce qu'on ne doit pas oublier qu'en lien avec le handicap, il y a la famille. Alors est-ce que les personnes handicapées ont choisi de passer le confinement dans la famille ou dans l'institution? Parce qu'une fois que le pas était fait, bien évidemment, il y avait une forme de séparation et de cloison entre l'univers de confinement et l'univers habituel dans lequel on vit, et pour les professionnels, parce que pour eux aussi ça a été extrêmement difficile. Difficile d'abord parce qu'il a fallu s'adapter, on est souvent tombé malade, il a fallu donc s'écarter du travail, remplacer cette personne par quelqu'un d'autre pour faire tourner le service. Donc ça, c'est le volet organisationnel pour les institutions, arriver à faire tourner la boutique, parce qu'on a une responsabilité 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Et donc, en effet, c'est l'ensemble de ces difficultés qui a contraint un secteur riche en compétences, en talents et en réactivité à devoir s'adapter, comme nous tous, mais dans les collectivités, ça a été plus dur, plus difficile, plus douloureux.
Alors, on sait aussi que le coronavirus a freiné les embauches. Donc, pour l'inclusion des personnes handicapées, évidemment, j'imagine que c'est très compliqué aussi. Il y a un autre sujet dans Cap 48, c'est la recherche contre la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce qu'elle n'a pas été freinée, justement, pour laisser la place à la recherche, justement, sur le coronavirus?
Mais en tout cas, pendant la première vague, pendant la crise du printemps, évidemment, les hôpitaux ont dû se consacrer pratiquement à part majeure, à part entière, à la lutte contre le Covid. Et donc, toute une série de soins, on l'a vécu et c'est confirmé. En effet, une série de soins ont été décalés dans le temps pour faire face à cette vague de patients contaminés. Très rapidement par après, les activités ont été reprises dans le courant de l'été, comme pour l'ensemble des hôpitaux. Alors, il y a eu un ralentissement à ce moment-là, mais on ne peut pas dire que cette recherche a été impactée de manière significative et durable. Les activités ont continué, les patients ont continué à être suivis. C'est une recherche qui est en route depuis une petite dizaine d'années et qui a des résultats fantastiques, puisque pratiquement 50% des patients qui sont dans ce cadre de cette recherche ont une rémission de la symptomatologie après 6 mois. Donc ce sont des domaines sur lesquels nous continuons à travailler avec les équipes médicales de l'ULB, de Saint-Luc et de Liège, de 3 universités, et pour lesquels il y a encore de grands espoirs d'évolution.
Par exemple, dites-nous justement, nous qui allons peut-être faire des dons demain pour Cap 48, à quoi servira cet argent, notamment dans la recherche?
Alors, donc nous avons dans les financements de Cap 48, il y a un premier grand volet qui concerne les associations. Donc ça concerne pratiquement 2/3 des financements partent dans le secteur du handicap et de l'aide à la jeunesse. À côté de ça, nous avons des projets à plus-value importante pour la société. Alors on en parlait, le projet de recherche médicale dans lequel nous finançons les équipes qui font de la recherche sur la polyarthrite de l'adulte et du jeune enfant, de manière à identifier les facteurs précoces d'apparition de la maladie pour justement en atténuer le développement. Ça, c'est un axe extrêmement important de la recherche, donc à la fois avec ces 3 universités. Il y a le projet École Accessible, donc permettre que des enfants à besoins spécifiques, des enfants handicapés, puissent avoir accès à l'enseignement ordinaire parmi les autres enfants. C'est extrêmement important pour nous. Donc on finance à la fois des travaux dans les bâtiments, mais également la création de projets innovants comme des classes inclusives.
Et ça n'a pas été stoppé pour l'instant, ça existe toujours.
Ça continue. Au fond, cette crise, nous tous, dans notre vie, nous nous sommes adaptés. Tous les travaux qui sont menés dans les collectivités, dans le handicap, dans l'aide à la jeunesse, ont dû s'adapter. Et donc les projets continuent à avancer, mais à vitesse parfois réduite, avec les difficultés que nous connaissons. Donc il n'y a pas de différence, on ne vit pas dans un monde clos, un monde à part, on vit dans le même monde. Et donc les travaux, les évolutions des projets ont été parfois un peu ralentis, mais on continue sur la lancée. Et donc les financements qui seront apportés grâce à Cap 48 et à la solidarité de ce week-end vont permettre de renforcer ces activités-là de fond, parce que ce sont elles qui finalement continuent à donner les compétences, donner les talents, donner le bien-être aux personnes handicapées, aux jeunes en difficulté. C'est également s'inscrire dans une société, arriver à faire la transition entre le tissu associatif et puis l'âge adulte, trouver une formation, un métier. Cette période de transition qui est tellement importante pour les jeunes qui sont un peu en difficulté, c'est arriver à trouver sa place dans la vie une fois qu'on sort de l'associatif. Donc ces sujets de fond restent d'actualité, mais c'est vrai qu'ils sont bousculés, ils sont fortement bousculés par les turbulences que nous rencontrons maintenant.
Comment vous abordez la soirée de Cap 48 de demain, Renaud Tocard? Est-ce que vous voyez qu'il y a une volonté toujours de la part de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, de donner? Comment se comportent les gens pour l'instant?
Écoutez, d'abord, je dirais que le propre des opérations de solidarité, comme nous le sommes, nous, Cap 48, comme l'est également le Télévis ou Viva for Life dans quelques mois, ce sont des opérations qui existent pour répondre à des problèmes de crise. Donc nous sommes dans notre raison d'être actuellement. Quand les difficultés sont là, notre rôle est d'autant plus important. Alors évidemment que nous sommes inquiets sur les questions de modalités pratiques, parce qu'en effet, avec cette évolution rapide à nouveau de l'épidémie maintenant, chaque jour, je dois vous dire que les modalités doivent s'adapter un peu plus pour la grande soirée de demain. Par contre, sur le comportement du grand public des donateurs, nous sommes assaillis de questions de gens qui sont proches de Cap 48, de nos causes, et qui nous disent, nous, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vous aider, plus vous aider? Donc il y a une véritable exigence supplémentaire de solidarité, de citoyenneté, citoyenneté exprimée par le grand public et les proches de Cap 48 pour faire des dons et soutenir les causes, parce que nous-mêmes, en connaissant, vivant cette crise qui nous touche tous, on comprend mieux aussi les difficultés et contre les difficultés